Une vie, une œuvre, Isadora Duncan, San Francisco, 1877, Nice, 1927. Bonjour. L'histoire a retenu d'elle la fin tragique, étranglée par son écharpe, prise dans les roues d'une voiture. Dans Une vie, une œuvre, il va s'agir de suivre le chemin d'une femme qui a contribué, selon Céline Duchesnay, à la libération du corps féminin, autant qu'à celui du mouvement dansé. Née à San Francisco, Angela Isadora Duncan est la benjamine d'une famille de 4 enfants. Son père, d'origine écossaise, le banquier Charles Duncan, fait faillite. Elle a 12 ans quand ses parents divorcent. Sa mère, Marie Dora Gray, emmène la famille à Auckland, où elle est professeure de musique. Très vite, Isadora abandonne l'école. La danse est sa passion. En 1900, cette admiratrice de la Grèce antique s'installe à Paris. Un de ses voisins est Auguste Rodin, avec qui elle se lie d'amitié. Et c'est à Meudon-Bellevue qu'elle créera une première école de danse, suivie d'autres, notamment en Allemagne et à Moscou. Elle eut une vie amoureuse tumultueuse, et de Sergueï Essénine à Roland-Garros, on lui prête de nombreuses conquêtes. Cette danseuse aux pieds nus, libérée du corset, échappe à toutes les catégories. En elle souffle une immense liberté. Céline Duchesnay signe avec Laurent Polleret « Une vie, une œuvre, Isadora Duncan » ou « L'art de danser sa vie ».
Florence Rochefort, Isadora Duncan est arrivée en France en 1900. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemblait la société française à ce moment-là ?
La société française en 1900, c'est assez contrasté. C'est à la fois une France encore rurale, encore traditionnaliste, encore très catholique, avec beaucoup de préjugés envers les femmes libres, ce qu'était déjà Isadora Duncan. Et en même temps, c'est Paris de l'Exposition universelle de 1900, avec une ouverture sur le monde, avec tout un pan de ou plusieurs pans de la société qui sont beaucoup plus libres que cette société traditionnelle ou que ces préjugés qui pèsent évidemment sur les femmes. Donc à la fois c'est encore la loi du code civil de 1804 qui empêche les femmes, surtout les femmes mariées, d'être indépendantes. Hein. Elles sont sous la coupe de leur mari, elles ne sont pas considérées comme des majeures, elles sont assimilées à des enfants, à des délinquants, donc c'est extrêmement violent. Mais beaucoup de femmes, par ailleurs, sont quand même libres, se débrouillent, soit qu'elles n'ont plus de mari, soit qu'elles ont un mari accommodant, soit qu'elles aient divorcé, soit qu'elles aient pris leur liberté. Donc à la fois, on doit avoir en tête ces contraintes très fortes, et puis à la fois, on doit avoir ces contrastes de possibilités d'indépendance. Il ne faut pas imaginer des femmes confinées chez elles. Les femmes sont dans la rue, les femmes vont à l'école... Les femmes sont instruites, les femmes sont commerçantes, artistes et innovent, mais elles sont tout de même très vite en butte avec des préjugés misogynes. C'est une société encore très misogyne et inégalitaire.
Comment pouvait être perçue Isadora Duncan qui refusait le mariage et qui avait donc décidé d'avoir des enfants de pères différents de façon tout à fait assumée ?
Alors le mot qu'on trouve quelquefois dans les journaux, on peut trouver sans doute dépravé, il y a toute une société bien pensante qui va la trouver, l'assimiler à une prostituée. Mais sinon, autre mot qui n'était pas forcément négatif, c'est excentrique. Elle est vraiment une outsider, elle vient de nulle part, elle invente quelque chose de tout à fait inédit que personne n'a encore vu. Elle a des idées que peut-être elle ne professe pas non plus de façon aussi ouverte qu'elle le fera plus tard ou qu'elle le fait dans ses mémoires. C'est pas une femme de discours, c'est pas une femme qui prend la plume ou qui prend la parole. Elle a des convictions et elle est de fait non mariée. Mais c'est surtout une artiste. Et on sait que les artistes sont perçus comme des femmes un peu extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'ordre des choses. Alors à la fois, elle fascine le public, et à la fois, elles peuvent faire extrêmement peur.
«
Marcel Jouhandeau, je crois que vous devez aimer la danse.
Oui, c'est très juste. Oui, la danse, j'en ai ignoré l'existence pendant presque toute ma jeunesse, mon adolescence. Elle m'a été révélée pendant mon séjour au lycée Henri IV. Il est arrivé ceci, au moment du dîner, nos camarades sont revenus absolument transformés. Nous avions peine à les reconnaître. Ils ne mangeaient pas et ne parlaient que de ce qu'ils venaient de voir. Et ils venaient de voir Isadora Duncan. Ils faisaient des pas, ils imitaient ses gestes, enfin. C'était l'Acropole, c'était toute la Grèce, tous les temples grecs et tous les dieux grecs qui avaient passé dans la silhouette d'Isadora. Je brûlais d'envie de la voir à mon tour et je n'ai pas tardé à satisfaire mon désir. Et ce qui est curieux, j'apprenais le grec depuis longtemps, mais que je n'ai commencé à l'apprendre sérieusement que parce que j'avais vu danser Isadora. Je me souviens que c'est après l'avoir vu danser que j'ai dit, je n'éteindrai ma lampe que quand j'aurai lu l'Iliade et l'Odyssée d'un bout à l'autre. Et je l'ai lu deux fois l'Odyssée dans le texte, n'est-ce pas, après avoir vu Isadora danser.
No, don't stop. Dance on. Please.
Who is that?
My name's Craig. I'm a designer, a fellow artist, a creature of the theater, like you. And I had to be sure.
You know what?
Of you.
Are you sure now?
Certain. You're extraordinary. Extraordinary.
C'est un mythe. Laetitia Doat. C'est un mythe, ce n'est pas une personne, c'est un personnage, c'est une fiction. Alors quel serait le mythe ? Oh, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a autant d'Isadora Duncan que de personnes que vous allez interviewer. Travailler sur Isadora Duncan à New York n'est pas du tout la même chose que travailler sur Isadora Duncan à Paris.
Le personnage new-yorkais serait qui ?
C'est pas ça, c'est ma posture. C'est la posture de la réception. Moi, en étant à New York, je ne vois pas Duncan de la même manière que moi étant à Paris. En étant à Paris, je vois la figure de la Belle Époque, je vois l'élégance à la française, je vois le raffinement critique, je vois la personne extrêmement lettrée, je vois l'intellectuel. Et quand je suis aux États-Unis, je vois la bête de scène, je vois le côté frondeur des États-Unis, le côté pionnier, cette manière d'être dans la vie complètement entière. Quand elle était à Paris, c'était surtout autour des années 1906-1913 qu'elle a été très connue. Et ça correspond aussi à une période de faste financier pour elle. Et c'est pas la même chose que quand elle est à Nice à la fin de sa carrière.
Et Miss Swanson, comment peut-on appeler Isadora ? Est-ce qu'on l'appelle Isadora Duncan ou Isadora Duncan ?
Alors, je pense que je n'ai jamais entendu Duncan. Je veux bien dire Isadora par rapport à Isadora. Je ne suis pas une Isadorienne ni Duncanienne. Je suis une danseuse Duncan, Isadora Duncan.
Isadora Duncan, hereby vow on my 12th birthday that I will dedicate myself to the pursuit of art and beauty and to the single life. I will never marry. I will never submit myself to any claims other than those of truth and beauty. Beauty is truth. Truth, beauty. That is all we know on earth. And all we need to know.
Cette figure d'émancipation que représente Isadora Duncan, est-ce qu'elle a en elle quelque chose qui vient vraiment des États-Unis, une imprégnation aussi de la société américaine, Florence Rochefort?
Je ne sais pas si elle représente des femmes américaines, mais ce qui est sûr, cette exaltation qu'elle a de la Grèce antique, c'est une vision assez typique aussi de l'Amérique, Une des possibilités d'explication, c'est cette fascination qu'ont eu les Américains à la suite d'Emerson pour la nature et pour des éléments qui renverraient à des principes même presque vitalistes. Donc je crois que là, elle apporte de sa culture américaine à la fois sa révolte contre le puritanisme, disons, quaker, hein, qui refuserait le corps, et en même temps une sorte d'idéalisme extrêmement poussé de la symbolique du corps et de la liberté. Et en ce sens-là, elle me paraît assez typique. Elle mêle des ingrédients qui me semblent assez typiques de l'Amérique du Nord et qui sans doute font son originalité aussi en France. C'est-à-dire que je crois qu'elle n'est pas du tout, quand elle arrive des États-Unis, dans un langage du corps qui pourrait être prêté à confusion avec des numéros de striptease ou de nu. Elle n'a pas du tout cette culture-là. Si elle a un rapport au corps qui est relativement libre, c'est un corps qui est sublimé comme naturel. Elle a une façon de le sublimer qui, moi, me semble renvoyer à cette culture de la nature liée à Emerson et à ses suiveurs.
Peut-être juste redire qui est Emerson.
Ce philosophe qui était parti dans la forêt et qui a était à l'origine d'une forme de transcendantalisme à partir de la nature et du rapport à la nature. Et il me semble qu'une partie donc, du travail d'Isadora Duncan renvoie un peu à cette façon de transcender le naturel ou proposer une transcendance à travers le corps et la nature et le rapport à la nature. Donc elle met son corps directement en scène. Et puis elle prend des risques assez considérables, mais peut-être n'en a-t-elle pas non plus conscience de la réception beaucoup plus libertine de la culture française. Et peut-être qu'elle a cette audace parce qu'elle a cette forme de naïveté qui lui viendrait aussi de sa jeunesse, hein, et puis peut-être aussi de cette culture américaine, de ce côté très autodidacte aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, mais qui a lu sans professeur, et puis une sublimation complète de ce qu'elle imagine être la Grèce antique. Et d'ailleurs, qui va complètement adorer ce qu'elle fait, c'est l'élite française, soit donc des gens marginaux qui consomment de la nouveauté et qui sont exaltés par sa beauté aussi, par l'originalité et par le fait qu'elle n'appartient plus à aucune famille de pensée ou une famille de représentation. Donc elle innove complètement, mais elle renvoie quand même à cette recherche de l'extraordinaire, du symbole, de l'esprit. On est vraiment dans un moment où on est fasciné par une sorte d'irrationalité.
Geneviève Vincent, à quoi ressemblait la scène parisienne en 1900 ?
La scène parisienne en 1900, c'était vraiment un contexte très très intéressant qui était une sorte de fête peut-être permanente. Mais je pense qu'on faisait autant la fête dans les salons privés. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette période, c'est qu'il y avait à la fois effectivement des lieux de spectacle, etc. Mais il y avait aussi chez beaucoup de personnes, en particulier de l'aristocratie parisienne, l'envie de faire la fête chez soi. D'ailleurs, Isadora Duncan, elle va commencer par ça, hein, par aller dans des endroits où on l'invite dans des soirées ou des après-midi ou des thés pour danser, pour montrer ce prodige américain que personne ne connaît, etc.
Elisabeth Schwartz, Isadora Duncan n'est pas passée par une école de danse. La danse est-elle une sorte de cheminement intérieur ?
Oui, le cheminement intérieur est très fort chez elle. Ceci dit, on ne peut pas nier la naissance de sa danse, d'un grand mouvement qui prend beaucoup d'ampleur en Amérique, surtout dans la culture dominante blanche. C'est ce qu'on appelle le delsartisme, c'est-à-dire c'est l'influence d'un grand, un Français qui n'est très peu connu en France, qui s'appelle François Delsart, qui est mort en 1871. Il avait un élève américain et donc celui-ci retourne au moment de la guerre de 70 en Amérique et veut vraiment promouvoir la théorie, la pratique, la pensée de François Delsart. Et donc il y a une espèce de, une acculturation, on pourrait dire, de la pensée de François Delsart en Amérique. Et ça va prendre une grande ampleur dont les femmes vont se saisir parce que c'était promouvoir un corps expressif et libre. Et ces femmes, tout d'un coup, eh bien, c'est lié aussi au mouvement Dress Reform, on quitte le corset. On va quitter le corset, on va danser en plein air. Et on va aussi, bien sûr, s'inspirer de la Grèce antique. Donc, elle n'est pas, elle ne sort d'aucune école, on pourrait dire. D'abord, en Amérique, y avait-il des écoles? Elle fait un petit peu de danse classique, mais ce n'est pas conforme à ce qu'elle ressent de son corps, puisqu'elle veut un corps délié et non pas un corps articulé. Et donc, par contre, elle en parle très peu dans ses mémoires, mais elle capte cela, on ne peut pas le nier.
Pourquoi, selon vous, on arrive à un moment aussi où on a envie de sortir le corps du corset? J'imagine qu'il y a quelque chose aussi, peut-être du contexte historique, qui fait que plusieurs femmes, au même moment, ont la même idée.
Oui, mais parce que si vous voulez, cette période de la fin du 19e et du début du 20e siècle, on appelle dans le champ de l'histoire de l'art la modernité.
Geneviève Vincent.
C'est-à-dire, voilà, certaines formes de l'art sont des formes du passé. Il faut réinventer quelque chose pour un monde nouveau. Ok, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est aussi qu'on rentre dans une période historique d'industrialisation extrêmement importante, un siècle de la vitesse, l'invention de l'électricité, dont je rappelle souvent que c'est une des premières nouvelles technologies. Donc, on est dans un monde, les trains, c'est-à-dire qu'on voyage, on prend l'avion, c'est-à-dire c'est le siècle de la rapidité, en même temps d'un capitalisme qui se développe de plus en plus. Ou même l'aristocratie, d'ailleurs, n'est déjà pas moribonde, mais c'est plutôt les grands bourgeois hein, qui prennent l'ascendant. Et donc, ce monde de transformation de capitalisme, avec effectivement la révolution russe en 17, puis plein de théories, parce que par exemple, c'était une lectrice d'un camp, elle avait lu Rousseau, c'est-à-dire l'homme est très très bon, c'est la société qui le pervertit. Et c'est vrai que pendant tout ce début du XXe siècle, toutes ces idées, je dirais, qu'on appelait réformistes, progressistes, ont été vraiment très très importantes. Et Duncan était quelqu'un qui considérait que les classes supérieures étaient arrogantes. Non seulement déformer le corps des petites filles, mais était arrogante. Arrogante dans l'éducation, arrogante dans tout. Et donc, du coup, ce capitalisme industriel, parce qu'il s'appelle comme ça à cette époque, était en train d'engendrer une société complètement nouvelle. Et dans une société nouvelle, il faut, en gros, ce qu'on appelle des arts nouveaux. Et donc, elle a été vraiment à la pointe d'un renouvellement de l'art extrêmement importante. Et puis quand même, s'il y a quelque chose qui est aussi important, parce qu'on ne le signale pas assez, c'est le rapport aussi qu'elle avait avec la danse académique, dont je rappelle quand même l'académisme, elle le déteste. Alors pourquoi elle déteste l'académie?
Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble cette danse académique, déjà?
Si on prend la fin du siècle, hein, en gros, on va dire 1840-1900, c'est la danse de l'opéra, c'est les ballerines, c'est les corsets. C'est la hiérarchie, c'est les étoiles, c'est une danse qui contraint le corps terriblement à partir de la verticalité, de l'en dehors, de aussi échapper au poids, c'est-à-dire on est toujours au-dessus de son poids, on n'est pas dans le sol, alors que Duncan fera une danse dans le sol, c'est une danse aérienne, etc. Et cet académisme-là, Duncan le hait, non pas parce qu'elle n'aime pas les ballets, mais parce qu'elle pense que c'est un lieu absolu de contrainte pour le corps des femmes et des enfants. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en même temps, ça la fascine. Hein. Il y a chez ces femmes-là, que ce soit Duncan, que ce soit d'autres, même grandes ballerines, ou même, par exemple, je me souviens de la fascination de Marie Wigman pour des grandes ballerines russes. C'est-à-dire, même les danseuses modernes étaient fascinées quand même par les danseuses classiques. Mais en même temps, elles se disaient, au XXe siècle, c'est plus possible de danser comme ça.
Absolument, c'est quelqu'un qui ne cesse de chercher toute sa vie, qui est une nomade, qui, comme elle dit, elle capte ce qui lui arrive depuis l'enfance. Le premier rapport qu'elle établit, qui construit sa danse, c'est le rapport, c'est une émotion.
Elisabeth Schwartz.
C'est une émotion à la nature, en particulier la mer, puisqu'elle dit « ma danse vient du rythme de la mer, des vagues ». Voilà. Donc ça, cette expérience-là, elle la connaît dans l'enfance, quand elle se promène, quand elle flâne au bord de l'océan Pacifique.
Et elle parle beaucoup de cette ondulation, enfin des vagues comme source d'inspiration.
Oui, l'ondulation devient justement le mouvement fondamental de sa danse. Des années plus tard, elle affirme, et en ce sens elle est dans la modernité, elle affirme ce rapport essentiel à la gravité et cette façon de panier la gravité, la force qui nous constitue tous, hein, et toute chose, tout objet, tout animal sur Terre. Donc elle ne nie pas la gravité, mais elle va jouer avec. Donc l'onde, qu'est-ce que c'est que l'onde, si ce n'est ce mouvement perpétuel de, à la fois, je m'abandonne à la gravité, c'est-à-dire je veux légèrement fléchir les genoux, descendre le corps vers le sol, et j'y résiste, et donc je vais non pas m'élever comme dans la danseuse classique qui monte sur pointe, mais plutôt suspendre. Donc on n'est pas, il y a un glissement de sens qui s'opère, on n'est pas dans l'élévation de la danse classique sur pointe, on est dans la suspension. Ce qui veut dire que la suspension, c'est un instant, c'est forcément éphémère. Donc on va redescendre. Et ensuite, ici, on ne cède pas, il n'y a pas de céder au sens de C, E, accent grave. On ne cède pas à la chute, jamais il y a de chute chez elle, toujours on se relève. Je m'abandonne. Et aussi, je résiste et je me suspends. J'ai une suspension.
Jules Stromboni, vous avez fait une bande dessinée consacrée à la vie d'Isadora Duncan avec au scénario Josefa Mugeno. Quelle place avez-vous donné à l'eau, la mer, la vague dans vos dessins?
La grande question, c'était comment l'océan lui donne envie de danser toute sa vie. Et du coup, l'élément de l'eau était très important et donc je voulais absolument travailler avec de l'eau en couleur. J'ai commencé à copier Bourdelle et Rodin un peu, l'air de rien. Après, je les ai oubliés aussi. Et j'ai commencé à dessiner la mer, plusieurs dessins de mer, d'océan, que j'ai apporté ici. Je voulais quelque chose de léger, très fluide. Je voulais vraiment utiliser l'eau comme élément principal. Et du coup, j'ai tout de suite pris l'aquarelle, j'ai fait des essais. Et au début, c'était assez trop rude. Il y avait quelque chose de trop noir, trop appuyé. Et du coup, après, j'ai pris le crayon et j'ai commencé à dessiner juste au crayon en relevant d'aquarelle. Bah, ça donnait un rendu qui correspondait à ce que je voulais.
Donc comme celui-ci, là, que vous avez sous les yeux.
Voilà, comme la double page, la première double page, qui est vraiment... on est immergé dans une espèce de tempête de mer, qui figure, en fait, le moment prénatal d'Isadora. On est dans la mer, quoi, vraiment. La mer dans les deux sens. En fait, je les ai fait au crayon, d'abord. Et ensuite, j'ai fait l'ancrage à l'aquarelle, à côté. Je voulais pas redessiner par-dessus, je voulais que ça, en fait, que prendre comme modèle comme ça et avoir l'encre à côté et superposer ensuite. Parce qu'en fait, même si on prend des libertés pour coloriser un dessin au crayon, il y a toujours l'envie de mettre en couleur entre guillemets ce que je voulais pas faire en fait. J'ai pris ces deux dessins et je les ai constamment gardés en face de moi sur tout l'ensemble de la bande dessinée. Parce que je voulais garder ce mouvement que elle a gardé toute sa vie en voyant l'océan s'agitait devant elle. Et je voulais avoir ce mouvement de flux et de reflux constamment dans le livre, même dans des endroits où c'est moins dansé. Et voilà, j'avais constamment ces deux dessins, j'avais l'océan en face de moi un peu, et je voulais reproduire un peu ce qu'elle avait vécu, enfin ce qu'elle dit avoir vécu en tout cas.
Et alors là, qu'est-ce qu'on voit sur cette planche?
On voit Isadora qui trempe les mains dans l'eau.
Une petite fille, hein?
Ouais, une petite fille, oui, qui est censée être Isadora. Qui trempe les mains dans l'eau et qui recule avec la marée montante. La vague redescend comme ça, elle la suit, elle repart, elle revient. Et ça suit une espèce de courant sinusoïdal comme ça dans la page. Donc elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Et c'est les premiers pas d'une sorte de chorégraphie complètement intuitive.
On ouvre votre livre sur la mer et on la referme aussi sur la mer et la force des vagues.
Oui, 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 bah, je voulais qu'elle soit constamment là. Je l'avais en tête. Je pense que danser toute sa vie en suivant une impression de jeunesse, il faut l'avoir en soi. Du coup, même dans des moments où je pense un exemple de dessin où elle danse sous un sol pleureur. Je voulais qu'elle se confonde avec l'arbre et qu'il y ait toujours ce mouvement très sinueux qui rappelait encore le mouvement l'onde des vagues. Bien que ce soit un végétal, je voulais que ça reste aquatique en fait. Et qu'elle soit immergée dedans et tout le temps, enfin je pense qu'elle a été immergée tout au long de sa vie, perpétuellement garder à l'idée ce mouvement.
Isadora Duncan, Florence Rochefort, dansait pieds nus, cheveux lâchés parfois, le corps non corseté. Là encore, elle fait preuve d'une originalité, d'une excentricité assez forte.
Oui, absolument inouïe même, parce qu'elle a un rapport à son corps et à la mise en scène de son corps à travers le code de la danse, qui est tout à fait novateur. Et qui tranche avec l'image classique, soit de la danseuse classique, et qui là est tout le contraire, extrêmement corsetée, mais d'ailleurs on est à l'époque encore du corset, où les pieds dans des pointes, avec tout un académisme de la danse, ou alors la danse plus burlesque ou plus populaire du French Cancan, mais qui elle aussi est très codée dans la féminité. Donc ce qui est frappant dans l'innovation d'Isadora Duncan, c'est cette liberté qu'elle a de son corps, d'une certaine forme d'impudeur, qu'elle transcende complètement par l'idée qu'elle a de la danse déjà, et puis par ses gestes et ses mises en scène. Mais c'est vrai qu'elle est pieds nus, c'est vrai qu'elle est dans des tuniques relativement transparentes, et qu'elle a une gestuelle qui est tout à fait hors du commun, et qui exprime une sensualité, une liberté finalement du geste, qui est très inédite, et qui est donc sûrement très surprenante, qui à la fois fait scandale, mais qui déclenche aussi des passions. C'est-à-dire que sans doute, elle doit émouvoir d'une façon tout à fait extraordinaire. On est déjà, en moindre mesure par rapport à aujourd'hui, mais on est déjà dans une forme de société du spectacle. C'est-à-dire que le spectacle est quelque chose où on va pour se distraire, pour avoir des émotions fortes ou pour pleurer. Si on va à un concert, si on va au théâtre ou si on va voir un spectacle de danse. Et donc, cette femme spectacle, cette femme spectaculaire, elle a provoqué des émotions tout à fait étonnantes. Pour nous, parce que ça sortait du rationnel, c'est-à-dire qu'elle déclenche des passions, elle déclenche de l'animosité pour celles et ceux qui ne supportent pas cette liberté du corps, mais elle déclenche aussi une passion inouïe à l'égard de ce qu'elle dégage. Et sans doute peut-on le mettre en rapport avec une idée de la sensualité à l'époque, c'est-à-dire que ce serait pas du tout la vulgarité, la mise en scène de la nudité, plus dans le cabaret ou près de la maison close. C'est une sorte de sensualité, de sexualité euphémisée et complètement, mis à un niveau de symbolisation, de presque de transcendantalisme, puisque elle-même a une approche extrêmement cérébrale finalement de son corps. Elle est perçue comme un symbole, c'est-à-dire qu'on est dans un moment justement de symbolisme, hein, dans la littérature, dans la peinture. Et si Isadora Duncan arrive à toucher son public, c'est aussi qu'elle n'est plus une femme, elle est une sorte d'esprit de la femme, c'est-à-dire elle symbolise quelque chose qui renvoie à une symbolique qui finalement désincarne la signification. Donc c'est très particulier pour nous. parce qu'on a du mal à s'imaginer cette émotion, cette fascination pour ces femmes fleurs du métro, de la peinture, et en même temps, ce sont quand même des femmes qui ne sont pas réellement des femmes, qui sont des symboles de la féminité. Et du coup, sans doute, il y a une assez grande ambivalence dans cette apparence de liberté.
Un jour, mon oncle me dit « Veux-tu aller chercher Rugère, qui est au tableau ?» Rugère, c'était l'électricien qui était au tableau, derrière les coulisses. Pierre, c'était l'administrateur, a quelque chose à lui demander. Alors, moi, j'étais content d'être chargé de mission. Au lieu de passer par les coulisses, je traverse la salle silencieuse. J'arrive, je monte l'escalier sur la droite pour grimper sur la scène. Alors, j'avance tout doucement. Et tout à coup, derrière un paravent, je vois une forme extraordinaire, une forme qui avait un visage, qui avait deux grands yeux, une sorte de triangle sur le ventre. Je regarde, et cette forme qui me paraissait immense me pétrifie, et tout à coup je me retourne et je crie « Maman, maman !» Cette forme, c'était Isadora Duncan. Elle était complètement nue, car elle devait danser le samedi. Et je me souviens, quand j'ai traversé la scène en sautant de la scène sur un fauteuil d'orchestre, aux orchestres, et vous savez, il y avait des gradins, ça montait énormément, en criant « Maman !» Et j'entendais une voix derrière moi qui disait « Mais n'aie pas peur, mon petit !» Austin, Austin, while I just sit
and sigh, the time goes dragging by, I'd like to kill the guy. Emily Swanson, d'où vient l'inspiration d'Isadora Duncan?
Dans ses écrits, Ma vie, il y a une scène très très claire, simple, où elle dit qu'elle croise ses mains devant sa poitrine. Alors, si vous pliez vos bras et vous croisez vos mains devant votre poitrine, gardant les coudes lourds à côté de vos côtes, vous trouvez le plexus solaire. Elle parle de le plexus solaire et elle dit que c'est là, c'est par là que l'inspiration rentre, le mouvement est né, le mouvement traverse. C'est par le plexus solaire que tout se passe, et même que le mouvement meurt. Suffit d'essayer, de se mettre dans cette position. Chaque danse doit rayonner de là, et doit mourir là, dans le plexus solaire. Je suis dans une trois-dimensionnalité en permanence. Et c'est là une autre partie de la technique, qui est le courbe S. Elle est inspirée par le courbe S dans la sculpture grecque. Dans le S, un personnage est en mouvement. On imagine rapidement, nous tous, facilement, le génie de la Bastille. Quand on regarde le génie de la Bastille en bas, on voit un S. De n'importe quel côté, on voit un S, comme la lettre S. Quand on regarde au-dessus, il y aura aussi un S. On cherche à se sentir dans cette S, cette spirale, cet mouvement, quand on fait la danse d'Isadora. On est dans cette S. Et on est aussi entre le ciel et la terre. Il y a une forte conscience d'où je viens et où je vais. Pas seulement dans le passé, donc, mais aussi la terre et vers le ciel. Et ça, ça fait partie de la courbe S.
On abandonne l'enfant au sol. On caresse, donc, dessus.
Son rapport à la mer, son rapport au flux et au reflux, à la vague, à l'ondulation. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous touche, vous, Laetitia Dohat?
Alors, je dirais évidemment que ça me touche parce que, en tant que moderne, elle travaille sur l'essence même du mouvement Et dans cette notion de flux et de reflux, il y a évidemment le flux respiratoire. Et donc à partir du moment où on est connecté au souffle, on est connecté à une forme d'intériorité. Et ce n'est pas pour rien qu'elle dit que le foyer, le moteur du mouvement se trouve au niveau du plexus solaire. C'est que c'est une région qui est juste au niveau, en dessous du diaphragme. Et que quand elle pose ses mains sur cet endroit-là, elle est en connexion avec la vie à l'intérieur d'elle-même. Elle pratique le yoga pendant qu'elle est enceinte. Tout ce travail aussi sur le souffle et sur la respiration, évidemment. Ce que nous, aujourd'hui, on travaille avec les méthodes somatiques, elle le travaillait déjà au début du XXe siècle. Et respirer. Au-dessus. Et encore. Et quatre. Et cinq. Et ouvre. Et porte.
Toujours dans cette quête du mouvement d'Isadora Duncan, quand vous regardez après ces croquis, ces esquisses que ces dessinateurs, peintres ou même sculpteurs ont pu faire d'Isadora, qu'est-ce que vous voyez, vous ?
Bourdelle, en l'occurrence, a vraiment su transcrire la sensation de poids proposée par Duncan. C'est la première danseuse dite aux pieds nus. Elle travaille vraiment en relation avec la terre, c'est-à-dire qu'elle accepte la gravité. Elle est encore très élevée vers le ciel, mais elle fait vraiment ce pont dans la verticalité. Et ces différentes qualités de poids à l'intérieur d'une même silhouette, c'est vraiment une gageure pour un danseur. Très peu de gens sont capables de faire ça. Et là, moi, je suis capable de le voir dans un dessin. Donc ça veut dire que Bourdelle a tout compris de sa danse. Et ça m'étonnerait que Bourdelle sache danser ou parle de la même manière que moi. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce dessin, par exemple, c'est la façon dont les lignes du vêtement se fondent avec les lignes de corps. Duncan travaille à une porosité complète par rapport à l'environnement. Elle n'agit pas sur l'environnement, elle est mue par l'extérieur. Elle se laisse imprégné de ce qui l'entoure pour faire émerger son désir. Donc du coup, son costume doit laisser passer les choses. D'où la nécessité de travailler avec des matériaux souples, légers, transparents comme la soie. D'où la nécessité aussi de se mettre à nu au sens métaphorique comme très concret. Et là, on voit le pli du tissu s'engouffrer dans le bas-ventre et glisser entre les deux jambes. On voit la chair de la cuisse, mais c'est pas seulement le volume de la cuisse, c'est encore une fois cette question du poids. Il y a de la matière, il y a de la tridimensionnalité dans ce dessin, ça c'est évident. Oui. Et il n'a pas besoin de créer une ligne de sol pour faire figurer la terre. Et comme Duncan, il n'a pas besoin de décor pour créer l'environnement et déjà créer du récit. Il y a une lutte, il y a une opposition, il y a un désir, il n'y a pas de décor extérieur. Et c'est aussi ça qui est très révolutionnaire pour l'époque, c'est que Duncan n'a pas besoin d'accessoires pour figurer le récit. Tout est porté par le geste.
Rhoda du Fay Bourdelle, que mon père était un peu voyant. Et un jour, il était allé la voir danser avec ma mère au Châtelet. Et pendant qu'elle dansait, il dit à ma mère, c'est épouvantable. Elle a la mort devant les yeux, elle danse la mort. Ma mère, surprise, lui dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Elle est charmante comme d'habitude. Elle est toujours pleine de grâce. Il dit, mais non, non, tu ne vois pas, c'est la mort, c'est effrayant. Alors, à la fin du spectacle, ils vont vers l'entrée des artistes et on annonce une voiture noire apparaît et on annonce la voiture de Madame Isadora. Mon père dit, oh, terrible, c'est un cercueil. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est épouvantable et c'est une voiture normale. Or, madame, figurez-vous que le lendemain, ses enfants ont été noyés dans cette même voiture. Mon père avait tout prévu. Il a été évidemment épouvanté. Il savait qu'elle adorait ses enfants, qu'elle allait être complètement bouleversée par cela. Il est allé la voir pour essayer de la consoler et ne trouvant pas autre chose à lui dire, il lui a dit ce qu'il aurait fait lui-même. Il a dit, dans un cas comme ça, il faut mettre votre douleur dans votre art. Lui, évidemment, il aurait mis sa douleur dans sa sculpture. Il lui a dit, mettez votre douleur dans votre danse. Et Isadora, la pauvre, l'a écoutée. Et alors, elle a dansé en suivant l'enterrement de ses enfants. Et alors, figurez-vous que tout Paris a dit, quelle cabotine, quelle horreur, cette femme qui danse à l'enterrement de ses enfants, c'est épouvantable. Alors, mon père a été consterné. Quand il a lu ça, il a dit à ma mère, mais voilà, c'est ma faute, toute la presse l'accable, parce que cette malheureuse a suivi mon conseil. Alors, il a été bouleversé de ça, mais la pauvre Isadora, elle, ne l'a pas compris comme ça. Loin d'en vouloir à mon père, elle lui a écrit une lettre admirable. Elle lui écrit, cher grand maître, ça vaut la peine de passer par toutes les agonies, douleurs, tout perdre pour recevoir tes paroles, ta bonté. Je suis si fière, elle souligne fière, et heureuse, n'importe la perte de tout, puisque je retiens ton affection, ton Isadora. Je trouve cette lettre bouleversante quand on sait la douleur affreuse qu'elle avait eue par la mort de ses enfants.
Allons, mes oiseaux, levez les bras.
La vie d'Isadora Duncan bascule le 19 avril 1913. Ce jour-là, elle perd ses enfants, Deidre, 12 ans, et Patrick, bientôt 3 ans, noyés tous les deux dans la Seine suite à un accident de voiture. De cette tragédie, elle créera des années plus tard une pièce chorégraphique intitulée « La mer », où seule en scène, elle semble accompagner et bercer un enfant invisible.
Et je reviens. Et j'emmène encore un peu plus, et cette fois-ci, le regard suit la main pour désigner le chemin. L'oreille entend, la tête se tourne, le rapport à la bouche, à la tête de l'enfant, et je prends à nouveau la main. Et je suis appelée par le devant, et je désigne. Je suis à l'écoute, je prends et à nouveau, je montre devant. Et une troisième fois. Et cette fois-ci, je suis sous l'étoile.
Stretch your fingers, everything. Now everything stretches, tout le corps étendu, les bras, l'épaule, les doigts.
C'est une femme qui a une vie tragique, toujours nue, par le sens du bonheur, par l'espoir. C'est pour ça qu'elle n'a de cesse de fonder des écoles.
Elisabeth Schwartz.
Alors elle a cette idée, à la façon de Jean-Jacques Rousseau, que l'enfant naît pur, un peu comme l'enfant sauvage, et que c'est la société qui le pervertit. Donc, elle va, l'enfant pour elle, si on l'éduque d'une façon très libertaire, va voir garder ce sens du bonheur, et la société va pouvoir se transformer et être toujours perméable à ce sens du bonheur. Donc c'est pour ça que la danse pour elle, c'est pratiquement un prétexte quand elle ouvre ses écoles de danse. Comme elle dit, c'est une école de vie et c'est une école, c'est une utopie. C'est une école pour le futur, pour une société meilleure.
Donc il y a une idée politique forte derrière.
Exactement. Ce qui est aussi très important chez Isadora Duncan, c'est que sa danse a des enjeux esthétiques, très précis. Elle a des enjeux pédagogiques. Je vais enseigner à des enfants. J'ai le souci de l'enfance, de son corps, de son harmonie, de son bien-être. Et également, j'ai un souci politique. Œuvrons pour une meilleure société égalitaire, avec un corps qui ne souffre pas, avec l'idée que l'expérience du corps est au cœur de la problématique. Et ça, je trouve que c'est toujours actuel.
À quoi pouvait ressembler une journée type dans ces écoles de danse, ces écoles d'Isadora Duncan? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui faisait ces enfants?
Alors, on sait cela surtout de l'école de Grunewald, qui a été fondée en 1904 à Berlin. Et en fin de compte, les enfants étaient levés à 7 heures du matin, tout de suite mis en tenue légère, et ils vont courir dans les bois proches. Ensuite, ils revenaient, petit déjeuner, etc. Toute la nourriture était frugale, végétarienne. Et ils avaient des cours de musique, des cours de danse, différentes pratiques corporelles de gymnastique, etc. Et puis ils avaient ce qu'on appelle à l'époque les humanités, c'est-à-dire apprendre le français, l'anglais, etc., l'histoire. Je ne pense pas qu'ils aient du latin, du grec. Mais ils avaient, elles prenaient en charge les enfants. Ils avaient à la fois, ils étaient dans une école, comme on pourrait dire une école communale, mais en même temps, ils avaient des cours de musique et de danse. Voilà. Et ils étaient en dortoir, elle avait eu le soin de mettre au-dessus de chaque lit une reproduction, soit une sculpture grecque, soit des enfants de Donatello, les anges chanteurs par exemple, des enfants qui chantent, etc. Des représentations de peintres, de sculpteurs, d'enfants. Voilà, donc le lieu était le lieu des enfants. Et il faut aussi, pour montrer combien cette école de Grunewald était complètement en dehors de la société berlinoise puritaine, luthérienne, eh bien c'est que les enfants étaient habillés en tunique à la grecque, sandales, même des fois pas de chaussettes en hiver. Donc les enfants du voisinage leur jetaient des crottins de cheval, puisqu'à cette époque c'était encore les voitures à cheval, et des cailloux. Et les gens disaient, mais comment ça se fait? Vous laissez ces enfants, elle disait à la gouvernante, vous laissez ces enfants dans cette tunique-là? Pauvre petit, c'est de la cruauté. Pauvre enfant.
On peut rappeler que ce sont des écoles gratuites aussi.
Exactement. Là aussi, c'est quelque chose qui montre sa générosité. Elle prend en charge une vingtaine d'enfants, qui sont pour certaines familles une bouche de moins à nourrir, puisque l'Allemagne, l'Europe, ce sont des pays d'émigration vers l'Amérique, l'Australie. Donc, des fois, ce sont des bouches en moins à nourrir pour des familles nombreuses. Elle les prend en charge totalement et les enfants sont confiés toute l'année, sauf durant l'été. C'est grâce à sa prestation qu'elle peut payer, prendre en charge complètement la nourriture, les vêtements, l'éducation, un médecin qui surveille, etc., qui vient voir les enfants, etc. Donc tout est de nos jours, ça serait plus du tout possible avec les règles de la DAS, c'est évident. Voilà.
Je crois aussi qu'à partir du moment où elle-même, en 1913, a perdu ses enfants, le lien qu'elle a pu avoir avec ses petits élèves s'est renforcé de manière extrêmement forte.
Oui, alors les petits élèves sont devenus des belles jeunes filles, et parmi les 20 enfants qui sont rentrés à l'école de Grunewald, qui a fini en 1909, lorsque elle s'est déplacée à Berlin, elle avait eu un enfant de Gordon Craig, et la société, la fondation qui l'aidait dans cette école, une fondation privée, a retiré ses fonds, parce que justement, elle choquait en ayant un enfant en dehors des liens du mariage, voilà, avec en plus Gordon Craig. Donc elle s'est déplacée, elle est venue à Paris en 1909, et là, ces jeunes filles se sont devenues des belles jeunes filles qui ont commencé à danser régulièrement autour d'elle. Et c'est vrai que cette Isadora Duncan, c'était, lorsqu'on lit leur mémoire aux Isadorables, elles disent, puisqu'on les a, Fernand Ivoire les a appelées les Isadorables, elle fait une contraction entre Isadora et Adorable. Donc ces jeunes filles qu'on a appelées les Isadorables, au nombre de 6, eh bien dans leur enfance, elles appelaient Isadora Duncan, qui revenait régulièrement de tournée avec des cadeaux. C'était leur fée, c'était leur fée marraine, quelque part, entre guillemets. C'était leur mère spirituelle. Et lorsque les deux enfants d'Isadora Duncan sont morts, c'est vrai que cela a accentué leur lien spirituel. Elle les a adoptés à la fois pour des raisons administratives, mais ne soyons pas quand même pingres sur ce là-dessus. Pour que ces jeunes filles qui étaient la plupart allemandes ou suisses-allemandes, pour Anna Duncan, elles ont pu émigrer en Amérique, sauf Lisa qui est restée en France. Eh bien, au-delà de ça, c'était véritablement montrer combien elles étaient leur enfant, leur fille spirituelle. Voilà.
Geneviève Vincent, comment Isadora Duncan a-t-elle réussi à financer ses écoles de danse?
Elle va rencontrer beaucoup d'hommes, par exemple, pour de l'argent. C'est la vérité. Des danseuses disaient, mais nous, on ne comprend pas, parce que nous, on n'a pas grand-chose à vendre à part notre corps. Donc, si on a besoin de vendre notre corps, eh bien, voilà, on vend notre corps. Donc, c'était quand même aussi quelque chose qui était très nouveau, c'est-à-dire qu'elles revendiquaient le fait qu'elles n'avaient rien à vendre, en gros, qu'elles n'avaient pas de force de travail, qu'elles ne travaillaient pas, et que donc, de toute façon, elles allaient se faire entretenir. Et Duncan, elle, va pas aborder du tout le problème sous l'angle comme ça de la sexualité, etc., mais sous l'angle de moi, j'ai besoin d'argent pour faire mon art, pour ouvrir mes écoles, pour ouvrir une école en Grèce, pour m'occuper des enfants, etc. Pas les siens d'ailleurs, forcément, mais les enfants d'autres enfants, les orphelins, et donc il me faut de l'argent. Donc l'argent, je vais aller le prendre au fils Saint-Ger, par exemple, hein, des machines à coudre, parce que lui, il a de l'argent. Ça lui coûte pas grand chose de donner de l'argent pour l'art. Et ça, je trouve que c'est d'une perspicacité extrêmement intéressante. Alors évidemment, les moralistes peuvent dire « Non, mais c'est un scandale qu'une femme, c'est ça. » Non, mais en matière d'art, elle a raison. La même chose quand elle accepte d'aller en URSS, enfin à l'époque en Russie. On se dit « Non, mais attends, une Américaine qui va en Russie, eh ben pourquoi elle va en Russie ?» Parce qu'un commissaire du peuple plus intelligent que les autres dit « Tiens, elle est intéressante, on va la faire venir pour réfléchir, pour ouvrir des écoles. » Alors elle y va. Alors comme en plus elle commence à détester l'Amérique, eh ben elle y va. Alors elle y va, elle va voir des choses inouïes et qu'elle va faire ces fameuses danses qui sont les études révolutionnaires, dont on mesure à peine aujourd'hui l'importance que ça a eu esthétiquement. D'abord parce que ce sont des figures seules, des solos, et le solo est une figure de la modernité absolument évidente, et qu'en plus ce qui s'y joue à l'intérieur est véritablement une autre façon de danser, d'occuper l'espace, d'arriver très très près du bord de la scène, de lever le poing, de marteler, voilà, et d'évoquer des choses qui gênent quand même, parce que la Russie à l'époque n'a pas que des amis bien sûr. Bon, et puis après, évidemment, il y a cette magnifique histoire d'amour avec Essénine. Bon, Essénine qui finira quand même par se suicider, hein, le poète maudit. Elle sait vraiment où elle met les pieds. Et je crois que contrairement... elle a su très très jeune où elle mettait les pieds.
Bien voilà, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais maître d'hôtel au Maurice Restaurant, qu'on appelait, qui est aujourd'hui disparu, évidemment. Et Isidore Duncan fréquentait chez nous. Et j'avais également un ami, un coureur automobile, nommé Benoît Falchetto. Isidore Duncan m'avait demandé si je pouvais lui trouver une voiture, c'est-à-dire genre sport. J'en ai fait part à Benoît Falchetto. Et effectivement, le 14 septembre 1927, ils se sont trouvés en face. Isidore Duncan, je la vois toujours lorsqu'elle descend les quelques marches de sa villa avec sa dame de compagnie à l'époque. Je verrai toujours son geste, assise dans la voiture, prendre son ciel vénitien et le mettre évidemment, n'est-ce pas, sur ses épaules. Benoît Falchetto, coureur émérite, il a voulu évidemment faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un départ foudroyant. Il a parcouru exactement 15 mètres. Affolé. Je me précipite, j'étais témoin, avec mon couteau, n'est-ce pas? J'ai eu un mal pénible pour couper son échelle, et quand je voulus relever Isidore Duncan dans mes bras, la tête était littéralement décapitée.
Ainsi mourut Isadora Duncan, à 50 ans, étranglée par sa longue écharpe qui s'était coincée dans les roues d'une Bugatti. Mort tragique, survenue un an et demi après le suicide d'Essénine. Isadora avait fini par rentrer en France. Tout en écrivant ses mémoires, intitulées « Ma vie », elle n'a jamais complètement abandonné la scène. Le 8 juillet 1927, elle danse sur du Schubert et du Wagner au Théâtre Mogador. La salle était comble, c'était sa dernière scène. Ses cendres reposent aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise à Paris, auprès de celle de ses deux enfants.
C'est une pionnière de la modernité, que c'est pas la seule. Et que souvent, on retient un nom, celui-ci, par exemple. Ça pourrait être Loy Fuller, ça peut être un peu plus tard Martha Graham, ça peut être... Mais moi, je crois vraiment au fait que les gestes, et notamment le geste de l'invention de la modernité, il est fait par beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'elle a incarné une série d'élans qui, eux, étaient très collectifs. Elle a cristallisé des questionnements. C'est l'Amérique qui prend tout d'un coup une place prépondérante dans le monde. Elle fait partie de ça, mais elle se penche sur l'Europe. Elle se penche sur les racines, sur l'histoire. Et du coup, elle rentre en dialogue avec la modernité qui était en train de s'inventer en Russie, en Allemagne, à l'époque.
Boris Charmatz, est-ce que vous pourriez nous présenter Isadora Duncan en quelques mots ?
Danseuse aux pieds nus, mais aujourd'hui, on danse encore en pieds nus. La nudité, alors c'était des voiles à l'époque, aujourd'hui il n'y a même plus de voiles. L'improvisation, un rapport extrêmement sensible au temps présent, à l'instant, au fait à la musique, hein, mais je dirais au-delà de la musique, au contexte, à la révolution, à l'époque, à ce qui est en train de se passer. Et qu'elle a incarné tout ça toute seule avec une histoire qui est vraiment liée à ce début du siècle incroyable qu'on connaît.
Que représente Isadora Duncan pour vous en un mot ?
Bon, évidemment, c'est une quête de liberté. Hein. C'est un mot très galvaudé, mais la liberté du carcan qui est imposé au corps et qu'on essaye de découper et de jeter aux oubliettes. Ouais.
Comment est-ce qu'on pourrait résumer la danse d'Isadora Duncan ?
Elle est très liée à la respiration et au fait que, du coup, elle construit un corps perméable. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que le fait, c'est un corps qui est perméable aux éléments qui l'entourent, l'océan, le vent, les feuilles, le sol, mais aussi au corps. Le mouvement qu'elle instaure, il rentre tout de suite en dialogue, en correspondance, en écho à des corps concrets, présents sur la scène, présents parce qu'il la regarde, mais aussi des corps imaginaires, l'enfant mort qu'elle berce dans la berceuse, les ouvriers, le monde ouvrier même, on pourrait dire, le peuple, etc. Donc la perméabilité, je trouve que ça c'est une des choses vraiment importantes, ce qui fait que les gestes sont pas isolés, pas seuls, ils se terminent pas au bout de la main, au bout du pied, au bout de la tête, il y a de la respiration, les gestes s'échangent et se propagent en fait, dans un contexte qui est très très large. Je crois qu'aujourd'hui on continue de se questionner sur ce qu'est l'improvisation, ce qu'est la nudité et ce que peut signifier la nudité, ce que peut être la recherche de liberté, et que du coup il y a, je ne sais pas si beaucoup d'artistes pourraient se revendiquer d'Isadora Duncan parce que c'est une figure tutélaire, mais je pense que il y a quand même un élan lié à cette modernité-là, qu'on pourrait d'ailleurs questionner en se disant « mais qu'est-ce qu'il y a avant Isadora Duncan ?» Parce qu'on coupe aussi des fois trop facilement par période, on se dit « voilà, elle a commencé quelque chose ». Ça vient toujours de quelque part. Hein. Mais je pense que ces questions-là, elles restent, elles continuent, elles sont travaillées par différentes personnes, différents styles, différents artistes dans le monde entier. Mais je crois qu'elle peut évoquer quelque chose de fort pour tous ces artistes-là.
Isadora Duncan ou l'art de danser sa vie, un documentaire de Céline Duchesnay et de Laurent Polleret, avec Boris Charmatz, Laetitia Doat, Florence Rochefort, Elisabeth Schwartz, Jules Stromboni, Amy Swanson et Geneviève Vincent. Les danses d'Isadora Duncan ont été interprétées par Laetitia Doat, Amy Swanson, Jesus Maria Sevary, Elisabeth Schwartz et Boris Charmatz. Merci à Amy Lofberg. Recherche et archivina Manuela Dubessy. À la technique Frédéric Héroux, Benjamin Thuot, Jérémy Tuile. Mixage Valérie Lavalard. Attaché de production Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko. Toutes les références bibliographiques, musicales et sonores sont à retrouver sur le site de France Culture à la page D'une vie, une œuvre.
Cette émission est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture. Nous sommes sensibles à vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre, Yehudi Menuhin.